Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Roquigny, Clément Salazar, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Pascal Bénard. De retour donc après une petite semaine de repos durant laquelle vous avez eu l'occasion d'entendre une série consacrée à la diplomatie française présentée par Tiffaine de Roquigny, on va parler cette semaine de l'insécurité alimentaire. Le mois dernier, les Nations Unies ont averti que le monde était confronté à la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale avec un risque de malnutrition inédit. En effet, la famine menace près de 20 millions d'habitants dans 4 pays d'Afrique, le Soudan du Sud, la Somalie, le Yémen et le Nigeria. Et malheureusement, comme souvent, les causes sont moins à chercher dans les aléas climatiques ou une quelconque crise agricole que dans l'instabilité politique et sécuritaire qui produit un problème chronique d'accès à la nourriture. Au cœur de la malnutrition, les conflits armés, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
À la maison, nous n'avons pas assez de nourriture. Nous sommes en guerre et nous avons beaucoup de problèmes à gérer. À présent, nous avons besoin de nourriture et c'est alors que nous pourrons résoudre nos problèmes.
Pour manger, ils cherchent des vieux légumes comme celui-ci. Et ce petit bout de salade, ils vont le mettre dans un sac pour le faire bouillir et le manger. Et demain, ils reviendront et recommenceront.
Nous appelons les gens à être assez intelligents pour comprendre que laisser des pays comme la Somalie périr et laisser des peuples comme le peuple somalien souffrir des conséquences dramatiques de la sécheresse, du conflit et de la maladie, c'est un danger pour tout le monde. Nous avons besoin d'un soutien massif de la communauté internationale pour éviter une répétition des événements tragiques de 2011.
Des millions de personnes sont contraintes de tuer leur bétail et de manger les céréales qu'ils avaient mises de côté pour semer leur prochaine récolte, avertissait début mars le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exhortant les pays riches à financer les 4,4 milliards de dollars nécessaires pour éviter une catastrophe, disait-il, d'ici au mois de juillet. Le Sud-Soudan s'est déclaré officiellement en état de famine le 20 février dernier. Le pays a basculé en 2013 dans la guerre civile alors même qu'il venait tout juste d'accéder à l'indépendance suite à un référendum populaire. Aujourd'hui, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar se livre une bataille sans merci dans laquelle la population paye un terrible tribut. En effet, selon le rapport des Nations Unies, ce sont 5,5 millions de Soudanais qui pourraient se retrouver confrontés à une grave insécurité alimentaire d'ici juillet, c'est-à-dire 40% de la population totale. Alors comment comprendre la situation humanitaire dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui? Quelles sont les raisons aussi politiques qui ont conduit à ce drame et qui en portent les responsabilités? Quelles seraient les solutions aussi permettant d'enrayer ce cycle de violence? Les solutions sont-elles militaires, politiques, économiques? Outre ce Sud-Soudan dont on parlera, l'insécurité alimentaire, je le disais, s'aggrave dans d'autres pays, la Somalie, mais aussi au Yémen et au Nigeria. On évoquera justement ces deux derniers pays tout à l'heure avec Marc-Antoine Pérouse de Monclos et Laurent Bonnefoy. Mais pour l'heure, pour évoquer ce cas du Sud-Soudan, on a invité Marc Laverne. Bonjour Marc Laverne.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez participé à un certain nombre de missions humanitaires. Vous êtes un spécialiste de cette région. Vous aviez écrit il y a quelques années maintenant le Soudan contemporain, c'était chez Kartala. Le Sud-Soudan, la plus jeune nation du monde, elle est née en juillet 2011, il faut rappeler pour les auditeurs, à la suite d'un référendum d'autodétermination de janvier 2011. Le Sud-Soudan a donc fait sécession de la République du Soudan avec un référendum qui a vu le oui l'emporter à une très large majorité, c'était quasiment 99% des suffrages exprimés. Mais malgré sa reconnaissance par la communauté internationale, il y a encore des litiges qui subsistent quant au tracé de la frontière, et surtout ce qu'il y a, c'est cette lutte de pouvoir que j'ai un peu évoquée entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar, désormais en résidence surveillée en Afrique du Sud depuis l'année dernière, depuis juillet 2016. Ce pays est donc plongé dans cette guerre civile depuis 2013. Je rappelle, Marc Laverne, le récent rapport des Nations Unies. 5,5 millions de Sud-Soudanais qui pourraient se retrouver dans une situation d'insécurité alimentaire d'ici le mois de juillet, c'est-à-dire 40% de la population. Pas de doute, Marc Laverne, sur le fait que cette insécurité alimentaire, elle est entièrement le résultat du conflit politique. Ce n'est pas lié au climat, ce n'est pas lié à une crise agricole.
En effet, il y a des variations climatiques dans un pays tropical comme le Sud-Soudan, bien entendu, mais c'est une région qui est relativement privilégiée dans la mesure où elle est parcourue par le Nil et par ses affluents, qui font d'ailleurs d'immenses marécages dans lesquels vivent des populations qui sont des éleveurs de bétail. Et puis, au pourtour, il y a des populations agricoles, mais tout le monde peut vivre grâce aux pluies de mousson d'été qui viennent du mois de mai, juin, jusqu'au mois d'octobre, novembre, arroser tout ce gigantesque pays qui est plus grand que la France, hein, il faut peut-être le rappeler, 650 000 km². Alors, c'est donc pas un problème, même s'il y a El Niño qui frappe aujourd'hui ce phénomène récurrent, qui frappe la Somalie, l'Éthiopie, bien le Sud-Soudan est beaucoup moins sensible à ces changements climatiques que bien d'autres régions au monde. Donc, il y a cette possibilité de faire pousser de la nourriture, d'élever du bétail. Il y a aussi des richesses pétrolières qui sont importantes, qui rapportaient 5 milliards de dollars par an à ce nouveau gouvernement. Donc c'était un jeune État qui finalement avait des faits autour de son berceau. Mais je crois que, je l'avais écrit déjà à l'époque, cette indépendance annoncée était mal partie. Était mal partie dans la mesure où il n'y avait ni administration, ni cadre, ni infrastructure, ni service. Et que, aussi, on peut le dire d'ores et déjà, les gens auxquels les clés du pouvoir ont été remises étaient des militaires, des combattants, des rebelles, issus de ces grands peuples nomades, de ces grands peuples d'éleveurs de bétail, qui sont des guerriers par essence, je veux dire, pour protéger leur bétail ou bien pour voler le bétail d'autrui, mais ce ne sont pas des gens qui ont la notion d'un État, la notion d'une nation à construire. Donc,
ce ne sont pas finalement des populations qui se projettent dans l'avenir. Il eût fallu peut-être donner plus de responsabilité aux cultivateurs, disiez-vous justement dans cet article en l'occurrence.
C'est quelque chose que les anthropologues perçoivent plus facilement peut-être que les observateurs, qu'ils soient des diplomates ou qu'ils soient des journalistes ou bien des chercheurs d'autres disciplines. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez fondamental pour comprendre cette incapacité à construire un État alors que la communauté internationale a voulu cet État. Vous avez évoqué le référendum avec une très large majorité qui fait sourire d'une certaine manière parce que ce genre de résultat est totalement irrecevable généralement par la communauté internationale et la plupart des Sud-Soudanais n'ont pas été appelés à voter, n'ont pas vu une urne. Donc il y a eu une volonté américaine, pour dire les choses très simplement, de créer ce nouvel État différent et opposé au Nord.
On va y revenir évidemment parce que de ce point de vue-là, effectivement, les Occidentaux et peut-être que les Américains au premier plan ont une réelle responsabilité dans cette situation. Mais est-ce qu'on peut parler de famine aujourd'hui ? On est dans un état de famine ?
On peut parler d'un état de famine. Alors maintenant, il y a des instruments de mesure qui ont été mis au point par l'ONU et par les différentes agences qui s'occupent d'aide alimentaire, comme le Programme Alimentaire Mondial, l'UNICEF, etc. Bon, ces indicateurs sont quantitatifs et, à mon avis, ne reflètent pas la réalité telle que les gens la vivent. C'est-à-dire que les périodes d'insécurité alimentaire sont récurrentes dans tout le Sahel. C'est des choses auxquelles les populations sont adaptées et elles peuvent résister, passer les périodes. Actuellement, on entre dans la période de soudure, comme on l'appelle, où les réserves sont épuisées et où on attend les pluies pour avoir de premières récoltes. Mais dans cet entretemps, il y a la chasse, la cueillette, la pêche qui permettent de survivre. Hein. Les racines, les fruits de la nature, etc.
Oui. Donc le problème, on l'entend bien, finalement, c'est davantage un problème d'accès, finalement, qu'un problème structurel, en réalité. Cette famine, si famine il y a, est le résultat seulement de l'insécurité alimentaire, je mets seulement entre guillemets, ou est-ce que vous diriez qu'il y a une intention, peut-être du gouvernement, peut-être d'autres acteurs, d'affamer la population ? Est-ce qu'on est dans une situation où là, la famine est utilisée comme une arme de guerre ?
Oui, alors je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. C'est vrai qu'il y a une situation objective, comme dans toute guerre, qui est celle de rupture des approvisionnements. Et puis, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter. S'il n'y a pas d'aide gratuite qui est mise en place. Donc, il y a une montée des prix dans un premier temps. Au Sud-Soudan, c'est accentué par le fait que les camions ne peuvent pas passer, qu'il y a très peu de moyens de transport et de circuits d'approvisionnement depuis les pays voisins ou en interne. Donc, il y a déjà une situation de fait. Après, la guerre provoque ces destructions, ces pillages de greniers. Tous les villageois ont des greniers, ont des réserves aussi, les animaux, etc. Et quand il y a des armées, soit nationales, soit rebelles, qui dévastent les villages, eh bien, ils pillent évidemment tout ça. Alors après, la question est de savoir s'il y a une intention politique derrière, ou une intention mercantile, hein, d'obtenir de l'aide alimentaire pour la détourner. Ça, c'est des choses qui se sont vues au Sud-Soudan de très longue date.
Oui, parce que l'aide humanitaire dans ce pays, c'est aussi une rente.
Bien entendu, il y a eu 20 ans de guerre civile de 1983 à 2002 à peu près, ou 2005, où on a vu ça à plusieurs reprises. En 1998, dans le nord, dans le Bahr el-Ghazal, on a vu toute cette aide qui était déversée sous contrôle de l'ONU. Il y avait l'opération Lifeline Soudan, c'est-à-dire le secours au Soudan, qui coûtait 1,5 milliard de dollars par an pendant 15 ans. Et qui était financé ou alimenté par la CIA. C'est la politique américaine de containment, de contenir le régime de Khartoum qui était islamiste et qui était une dictature militaire, en maintenant le feu, je dirais, sous son siège à travers le Sud-Soudan. Mais la population civile ne bénéficiait pas ou très peu de cette aide qui était détournée, qui servait à alimenter l'armée rebelle et aussi l'armée gouvernementale. Il y avait une sorte d'accord entre les deux ennemis pour se partager le gâteau. Dans d'autres cas de figure, on l'a vu au Sud-Soudan aussi, il y a des seigneurs de la guerre qui se mettent en place avec des armées privées qui sont des mercenaires qui travaillent pour leur compte, mais aussi pour le compte peut-être aujourd'hui des grands seigneurs ou des grands leaders du pays qui s'affrontent et dont on parle toujours, hein, le président et l'ancien vice-président. Il y a des seigneurs de la guerre qui travaillent pour leur compte et qui peuvent prendre en otage une population, l'affamer, faire une piste d'atterrissage et appeler au secours pour que l'aide arrive. Et généralement, l'ONU ou ses agences s'exécutent.
Hein, mais attendez, justement, l'ONU, vous en parliez, il y a des casques bleus sur place. Il y a quasiment 13 000 casques bleus aujourd'hui. Est-ce qu'ils n'assurent pas justement la bonne gestion de cette aide alimentaire, le contrôle, sa répartition, sa distribution sur le territoire ?
Ça correspond à leur mandat. Mais alors le problème des casques bleus, là comme au Kivu par exemple, hein, et dans d'autres régions où ils interviennent, c'est la détermination. D'une part, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont bien payés, qui viennent de 50 pays différents, qui sont là pour gagner plus de soldes que dans leur pays, eux ou bien leurs responsables qui accaparent le surplus de la solde. Ça s'est vu et ça se voit au Soudan encore aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des gens qui sont motivés pour prendre des risques et qui arrivent plutôt pour compter les morts et les blessés que pour prévenir les affrontements. Alors, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a l'incompétence, parce que ce sont 50 pays qui apportent leurs troupes avec des langues différentes, des systèmes de commandement différents, des logistiques différentes, des armes différentes. Donc jusqu'à présent, par manque de volonté, parce que l'ONU finalement est une administration très lourde qui travaille plus en interne que pour rendre service à la communauté internationale, aux gens qui souffrent. Donc ils sont présents sur place, mais ils n'ont pas d'ordre, ils n'ont pas d'instruction, ils n'ont pas de commandement unifié pour faire ce qu'il faudrait faire, effectivement, ce que vous évoquez, c'est-à-dire sécuriser des voies d'accès, puisqu'on est en saison sèche aujourd'hui depuis l'automne, hein, et que ça dure encore pendant 2 mois. Sécuriser les voies d'accès pour les camions. Ce qui fait qu'on est obligé d'alimenter les poches de famine avec des avions, des largages. Et les largages coûtent beaucoup plus cher, 10 fois plus cher que l'acheminement par camion.
Voilà pour l'état des lieux, Marc Lavergne. Essayons de comprendre justement ce conflit politique qu'il y a derrière tout ça. Quelle est la nature de ce conflit ? Est-ce qu'il est question d'une simple lutte, je mets des guillemets, entre deux hommes de pouvoir, en l'occurrence Salva Kiir, le président, et son rival, l'ancien vice-président Riek Machar, ou est-ce qu'il s'agit aussi d'autre chose ?
On pourrait peut-être leur faire crédit de visions différentes de l'avenir de leur pays. En réalité, je pense que c'est assez secondaire et que c'est l'appétit du pouvoir, dans la mesure où qui a le pouvoir a les ressources et qui n'a pas le pouvoir n'a rien. Donc on est dans un système où les Occidentaux qui ont porté ce pays sur les fonts baptismaux sont un petit peu coupables parce qu'ils cherchaient, eux, des bénéfices en termes de popularité, en termes d'image. Et qu'une fois que l'indépendance a été acquise, ils se sont retirés en laissant les Sud-Soudanais se débrouiller. Des gens qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de formation et qui n'avaient encore une fois pas cette vision. Et c'est l'ONU qui a pris leur place, mais l'ONU est venue là avec des kits de formation de nations, d'États, de cadres, qui sont des kits qu'on impose dans n'importe quel pays où l'ONU se déploie sans aucune adhésion avec la réalité humaine du pays.
Pourtant, à l'époque de l'indépendance, justement, on a entendu des scènes de liesse dans les rues. Écoutez.
Les gens sont heureux, c'est fou ce qui se passe. C'est dingue, je n'avais jamais vu un tel phénomène avant. C'est la première fois que je vois les gens si contents.
Nous sommes si heureux pour l'indépendance du Sud-Soudan. Chaque Sud-Soudanais est plein de joie de participer ensemble à cette nouvelle nation. Nous sommes pleins de gratitude envers Dieu.
Voilà, on entendait cet extrait qui avait été diffusé à l'époque sur RFI. On était donc en juillet 2011. Vous nous rappeliez, Marc Laverne, que la communauté internationale a soutenu la création de cet État, de ce Soudan du Sud. Je voudrais comprendre pourquoi est-ce qu'elle l'a soutenu à l'époque et peut-être aussi la responsabilité qu'elle porte justement aujourd'hui dans la situation actuelle. Est-ce qu'à vos yeux, elle a correctement accompagné le développement de ce tout nouvel État quand même, qui a à peine 6 ans. Est-ce qu'elle a correctement développé les institutions? Est-ce qu'elle a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'elle a fait, comme disent les anglo-saxons, du nation building, quoi? Marc Laverne.
Écoutez, je crois d'abord que l'extrait qu'on vient d'entendre, effectivement, qui a été reproduit, diffusé largement, ne correspond pas à la réalité vécue des gens. C'est un extrait qui a été pris à Djouba, dans l'enceinte officielle, où les choses se sont déroulées et où il y a eu tous ces discours festifs avec présence d'ailleurs de Omar el-Béchir, hein, qui venait féliciter le nouveau président du Sud. Mais l'arrière-plan de tout ça, c'est un mouvement de libération des peuples du Soudan. Et non pas un mouvement populaire de libération du Sud-Soudan. Hein, contrairement à ce qu'on peut penser généralement, l'acronyme, c'est les peuples du Soudan. C'est-à-dire que c'était un mouvement qui se battait non pas pour l'indépendance, ni même pour l'autonomie, mais pour l'égalité de tous les Soudanais devant l'État.
Quand on leur a posé la question sur le référendum, il était bien question de l'indépendance du Sud-Soudan. Ils ont répondu visiblement, en tout cas c'est ce que nous disent les résultats, à 99% quasiment, pas tout à fait, mais à 99% pour...
Oui, peut-être que les 5 à 10% de Sud-Soudanais qui ont voté se sont prononcés en faveur de l'indépendance.
Mais c'est si peu que ça, la participation ?
Se rappeler, je pense que ça peut pas être plus. Mmh. Pour des raisons tout simplement logistiques, pratiques, ce sont des gens qui sont analphabètes, qui vivent dans des cattle camps, c'est-à-dire au milieu de leurs vaches, dans une brousse ou des marécages, et qui sont inaccessibles. Donc, on s'est contenté de cette apparence là, mais qui correspond à une certaine réalité. Il faut se rappeler que il y a eu un accord global de paix qui a été signé en janvier 2005, qui donnait une période intérimaire de 6 ans jusqu'en janvier 2011. Et c'est à l'issue de cette période intérimaire de 6 ans où on pensait panser les plaies, je dirais, de la guerre civile, faire en sorte que les Soudanais du Sud se rendent compte de l'intérêt de rester dans un Soudan uni, qu'ils voteraient pour l'unité, tel que leur ancien dirigeant charismatique, John Garang, qui a mené ce combat pendant 20 ans, l'avait voulu.
Mort dans un accident d'hélicoptère en 2005, John Garang.
Effectivement, en juillet 2005. Donc il n'a pas pu, finalement, lui-même mettre en œuvre son projet qui était de réunifier, de ressouder les deux Soudans, mais le Sud-Soudan...
Son projet n'était pas un projet indépendantiste.
Absolument pas. C'était un jacobin, si vous voulez. Quelqu'un que j'ai bien connu, puisqu'il a été mon collègue avant la guerre en question, et puis que je l'ai fréquenté tout au long de cette guerre. On a beaucoup parlé de ça. Et moi, je trouvais que son projet faisait sens. C'était assez visionnaire. C'était l'idée que ce n'est pas la différence de religion, de culture, de langue, qui implique des clivages, des séparations, comme on le dit souvent à propos de l'Afrique, des frontières artificielles. Il faut absolument que les frontières soient ethniques pour que les gens se sentent bien. C'est à mon avis tout le contraire, et la France est là pour le prouver d'ailleurs.
Est-ce que vous pensez que c'est précisément cette raison-là, c'est-à-dire cette idée que précisément il y avait à cet endroit-là une frontière culturelle qui passait et qu'il fallait donc créer un nouveau pays, c'était la vision finalement des Occidentaux et c'est la raison pour laquelle ils ont poussé vers ce référendum et poussé vers cette indépendance? Les Sud-Soudanais d'aujourd'hui ne souhaitaient pas, vous nous le dites, cette indépendance.
Les dirigeants, conscients et qui avaient le soutien de la population, ne le souhaitaient pas. Il y avait autour de John Garang, qui s'était battu pour l'indépendance dans la première guerre de libération de 1955 à 1972. Mais il avait changé de pied, si vous voulez. Et il pensait que aujourd'hui, compte tenu des changements démographiques, parce qu'il y a eu avec cette guerre des millions de Soudanais du Sud qui sont venus s'installer à Khartoum et dans les grandes villes du Nord, qui se sont frottés à la civilisation du Nord, il y a eu un mélange en retour aussi avec des gens du Nord qui venaient s'installer au Sud. Donc il pensait que l'avenir de ce pays qui était le plus grand pays d'Afrique, hein, 5 fois la France, était viable et avait des énergies, des ressources qui pouvaient être mises au service de tous, qu'il fallait fallait simplement rééquilibrer le nord et le sud et se débarrasser de tous les préjugés raciaux et autres qu'il y avait à l'encontre des sudistes.
Il y avait d'autres options justement pour faire justement ces rééquilibrages. On aurait pu par exemple imaginer une solution fédérale.
Oui, mais pour lui, le fédéralisme était une sorte d'entretien du clivage, si vous voulez. Je crois que pour lui, et en cela, il était très proche de nous, d'une certaine manière. Il était laïque, il était républicain, et il était unitaire, dans le sens où tout le monde pouvait préserver sa religion, sa culture, ses langues, mais que c'était pas la peine de diviser, de fragmenter ce pays, parce qu'on irait vers des solutions de prise d'indépendance. Et les gens du Darfour sont sur le même pied, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, que ceux du Sud-Soudan, de ce point de vue-là.
On va revenir justement sur cette fragmentation culturelle, ethnique aussi, parce que souvent on voit ce conflit comme un conflit ethnique, et je voudrais vous entendre en particulier sur ce point. Mais je reviens sur ma question précédente, et sur cette question de savoir ce qu'a fait l'ONU, ce qu'a essayé de faire l'ONU justement pour aider à la construction de cet État. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait en mettant en place des institutions capables de gérer ces territoires? Est-ce qu'il y a eu cet effort, je reprends l'expression de tout à l'heure, qu'on utilise dans le monde anglo-saxon? Est-ce qu'on a fait du nation building?
Alors, je voudrais d'abord revenir sur cette période intérimaire, c'est-à-dire qu'en janvier 2005, donc, il y a eu cette option qui était soit l'unité, soit la séparation à l'issue des 6 années. Le gouvernement du Nord d'Omar al-Béchir n'a rien fait pour rassurer, pour attirer les Sud-Soudanais à l'indépendance. Il n'y a eu aucun effort de fait, ni du côté du Nord, ni du côté du Sud, parce que, comme vous le disiez, John Garang est décédé 6 mois plus tard. Il a été remplacé par Salva Kiir, qui lui est un soldat qui n'est jamais sorti du Sud, et qui avait une vision, comme un peu la base, les soldats du rang, qui se sentaient en guerre contre les Arabes, d'une manière très globale comme ça, en référence aux périodes d'esclavage du 19e siècle. Donc,
les Arabes avaient étant les Soudanais du Nord, en fait.
D'une manière générale et globale, alors que les soldats venaient du Darfour, venaient d'autres régions, étaient eux-mêmes des gens qui étaient déshérités et opprimés dans leur région. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que l'ONU a fait son travail? J'allais dire évidemment non. Elle ne le fait nulle part. Elle a effectivement des kits qui s'appellent leadership building, nation building, state building, capacity building, leadership building. Tout ça, c'est quelque chose de désolant, parce que on veut apprendre à des gens qui se battent depuis 20 ans pour l'indépendance, pour la liberté, pour l'égalité, ce que c'est que la politique. À des chefs, à des vieux chefs chevronnés. Il y a une sorte de paternalisme qui frise le racisme dans cet envoi d'experts scandinaves, j'ai rien contre les scandinaves, ou originaires de peuples du Nord, disons, d'une portion très étroite de la planète, c'est-à-dire le monde anglo-saxon, l'Europe occidentale, ce sont eux qui envoient des experts, ou alors ce sont des gens qui viennent de l'Inde, qui viennent de Chine, mais qui sont formatés sur ce même modèle-là, et qui essayent, comme des missionnaires des temps modernes, d'impliquer ou d'imposer aux gens une nouvelle façon de voir. Alors que les gens ont leur propre structure de commandement, leur structure sociale, qu'on néglige totalement aujourd'hui, c'est-à-dire que on voit le tribalisme remonter à l'occasion de ces guerres, on voit des formes d'allégeance et de solidarité anciennes par défaut qui reviennent, mais on n'a pas envoyé des gens qui seraient à l'écoute de la population dans un premier temps et qui soient en mesure de les aider, de les contrôler. C'est-à-dire que très rapidement, moi je suis arrivé à Djouba quelques mois après l'indépendance, dès l'automne, c'était les boîtes de nuit, c'était les restaurants, c'était la grande, pour les gens qui avaient gagné, c'était, on festoyait et on se moquait de l'ONU et des gens qui étaient dans leur case climatisée à essayer de faire des plans de développement qui n'avaient aucun
sens. Ce qu'on comprend,
substance.
C'est que finalement, localement, ces chefs de guerre, tous ces groupes armés n'ont que faire des grands plans de construction étatique, d'ailleurs pas plus que des processus de paix qui en réalité n'ont aucun impact sur le plan local. C'est aussi la raison peut-être pour laquelle les accords de paix ne fonctionnent pas. Il y en avait eu un en 2015, il a volé en éclats en juillet 2016. C'est aussi parce qu'on est dans l'incapacité en réalité à imposer localement des processus de paix.
On est dans la capacité d'intéresser les gens à la paix. Quand il y a plus de gains à la guerre qu'à la paix, on continue la guerre. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui est que ces gens, sont arrivés au pouvoir, pour pour simplement accaparer des richesses et à tous les niveaux. Il n'y avait pas de banque centrale, il n'y avait pas de budget même national.
Donc c'est une question de contrôle des ressources. Je reviens sur une question qu'on évoque très souvent à propos du Sud-Soudan. C'est cette idée qu'il y aurait derrière ça aussi un conflit d'ordre ethnique. C'est quelque chose que vous rejetez. Je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi. Parce que je rappelle, donc Salva Kiir est de l'ethnie Dinka, qui est l'ethnie majoritaire, alors que Riek Machar, lui, est de l'ethnie Nuer. Donc très souvent, on voit, d'ailleurs on le lit très régulièrement dans les papiers, cette opposition et cette grille de lecture qui passerait par cette identité ethnique. Vous rejetez cette idée?
Je crois que ça procède de la simplification du regard occidental sur ces sociétés. Pourquoi? Parce que l'ethnie, c'est un concept, donc moi je ne suis pas anthropologue, mais qui a été forgé par des anthropologues pour identifier des peuples, peuples Dinka, peuples Nuer, qui ont leur aire de circulation et qui ont leur mode de vie, leur religion, leur langue. Bon, mais ça ne fait pas solidarité, ça ne fonctionne pas d'un point de vue politique, ces peuples, en temps normal. C'est le clan qui est la subdivision des peuples, qui est le corps de référence, et les clans se battent entre eux. C'est-à-dire qu'il y a traditionnellement beaucoup plus de guerres entre Nuer ou entre Dinka qu'entre les Nuer et les Dinka. Et il y a des alliances de clans Nuer avec les Dinka jusqu'à aujourd'hui, et de clans Dinka avec les Nuer.
Mais il y a eu très régulièrement des guerres justement entre les Nuer et les Dinka. Il y avait ces guerres de bétail, d'ailleurs même avant la guerre civile en réalité. Donc il y avait déjà, j'allais dire, un terreau conflictuel sur lequel, bien sûr, s'était ajouté un nombre de choses, et notamment ce qui a considérablement fait exploser la violence, mais je parle sous votre contrôle, Marc Lavergne, c'est l'arrivée massive d'armes qui sont arrivées de l'extérieur, pour le coup.
Les éleveurs de bétail sont toujours en train de, que ce soit des chameaux ou que ce soit des vaches, d'essayer de remplir leur stock de bétail s'ils en perdent à cause de maladies ou à cause d'accidents chez le voisin. Donc ils sont tous armés, et puis il faut se battre contre les lions, contre les animaux sauvages, etc. Donc les vols de bétail ont toujours existé. Aujourd'hui, ils ont pris une tournure incontrôlable, effectivement, dans la mesure où il y a des armes automatiques qui font que les compensations qu'on prévoit, parce que après ces affrontements traditionnel avec des lances, avec des arcs et des flèches, eh bien les anciens se réunissent et se mettent d'accord sur qui est responsable de quoi et quel est le montant de la compensation qui est due. Et on donne des vaches. Au passage, il faut signaler que ces gens élèvent des vaches non pas pour les manger, mais simplement pour vivre avec. C'est un instrument de prestige. On se nourrit du lait et du sang des animaux, mais on ne les tue pas. Donc l'animal a une fonction dans la société qui n'est pas simplement de production.
Je reviens sur la question peut-être des armes, Marc Lavergne, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette région, elles circulent très bien d'un pays à l'autre, et qu'en réalité, on est dans une région où les crises sont éminemment transfrontalières. Les crises qui ont secoué le Tchad, le Soudan, ou même la Libye, sont totalement liés en réalité. Et d'ailleurs, évidemment, le Darfour, qui partage des frontières avec chacun des pays que j'ai nommés, a payé évidemment un très lourd tribut, puisqu'il a été touché quasiment par chacune de ces crises. Donc on voit bien ici que les frontières ne permettent absolument pas, Marc Lavergne, de retenir les crises politiques et sécuritaires. Au contraire, on observe une très grande porosité et une sorte de système de vase communicant où les crises vont d'un endroit, d'un pays à l'autre, circulent comme ça.
Il y a aujourd'hui une percolation, effectivement, des armes qu'on peut acheter à vil prix, mais parce que les armes sont venues de Biélorussie, d'Ukraine, de Chine, d'Iran, et sont toujours présentes, et qu'on en fabrique maintenant sur place aussi. Un peu comme au Pakistan. Le Soudan est un grand fabricants d'armes légères qu'ils vendent dans toute l'Afrique.
Le Soudan, justement, quelle est l'influence aujourd'hui des autorités de Khartoum sur le conflit sud-soudanais? Est-ce qu'ils soutiennent l'un ou l'autre des camps? Est-ce qu'au contraire, ils soutiennent les deux camps précisément pour alimenter, j'allais dire, une crise globale à laquelle ils trouveraient, je ne sais pas comment, mais peut-être allez-vous nous le dire, ils trouveraient un intérêt?
Je pense que le gouvernement soudanais a été obligé de concéder l'indépendance du Sud-Soudan et de le faire avec le sourire à la suite du 11 septembre. Ça a été le déclenchement. George Bush est arrivé au pouvoir en janvier 2001. Il y a eu le 11 septembre en 2001. Et après, tout de suite, on a lancé ce processus de pacification pour apporter un élément de succès dans la diplomatie américaine. Maintenant, je crois que le gouvernement soudanais sent que le vent du boulet est passé et que maintenant il peut, et on le voit avec la levée des sanctions qui a été décrétée par Barack Obama à l'encontre en faveur finalement du gouvernement soudanais, effectivement il n'est plus sous pression comme il était avant. Donc le gouvernement soudanais souhaiterait reconquérir d'une manière invisible, sous-jacente, le Sud-Soudan. Il y a beaucoup de gens au pouvoir à Khartoum qui pensent que ça a été une erreur de le perdre et que...
Mais qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'on va faire voler en éclats cette indépendance et que le Sud-Soudan va revenir dans le giron des autorités de Khartoum?
Moi, je compare ça un peu à la façon dont De Gaulle a procédé en donnant l'indépendance aux colonies africaines d'AOF et d'AEF. C'est-à-dire garder le pouvoir économique, garder les richesses...
Garder le contrôle sur le pétrole?
Bien sûr, le pétrole, mais c'est aussi le cacao de Côte d'Ivoire, c'est aussi l'uranium du Niger. Jusqu'à aujourd'hui, la France garde ses ressources qu'elle peut payer en francs hein, et non pas en dollars, et puis qu'elle paye au prix qu'elle s'arrange pour obtenir. Mais il y avait certainement chez les dirigeants soudanais cette idée. On leur donne l'indépendance, mais comme ils ne sont pas capables, puisque ce sont des êtres inférieurs, eh bien, ils seront bien obligés de revenir vers nous. Et puis, de toute façon, depuis 20 ans, pendant toute la guerre, le gouvernement de Khartoum a divisé pour régner. C'est-à-dire qu'il a acheté Riek Machar, qui avait fait une révolution, une rébellion interne déjà en 1991, contre la branche principale de John Garang du mouvement de libération. Et aujourd'hui, le gouvernement soudanais, pour répondre à votre question, pousse un peu les deux feux, de manière à ce que les Sud-Soudanais se battent les uns contre les autres.
Encore un tout dernier mot, peut-être sur la question du pétrole, avant de se tourner du côté du lac Tchad. Qui aujourd'hui tire le bénéfice du pétrole? Les autorités de Khartoum? Des entreprises étrangères, j'imagine, qui ont passé aussi des accords pour aller exploiter tout ça?
Alors aujourd'hui, le pétrole coule, mais beaucoup moins qu'avant. Et puis, il est beaucoup moins cher qu'avant parce que c'est du pétrole de mauvaise qualité. Donc, il est en dessous de la barre des $30 par baril. Alors, le gouvernement de Khartoum touche déjà des royalties. Mais les royalties avaient été fixées à $24 le baril. Donc, il reste $6 le baril pour le gouvernement producteur du Sud-Soudan. Alors, cet argent va directement dans la caisse du gouvernement qui achète des armes avec. Parce qu'il n'est pas question d'investir dans le développement ni dans le soutien aux populations victimes de la famine. Hein, ça, on attend que l'aide humanitaire vienne pour faire ça. Les compagnies pétrolières, qu'elles soient chinoises, indiennes, malaisiennes...
Américaines, j'imagine aussi.
Pas américaines, non. Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction entre les intérêts américains et les intérêts chinois, puisque les compagnies américaines sont en Chine et travaillent avec du pétrole qui vient de n'importe où. Donc, il y a une sorte de partage
d'étages à l'échelle mondiale. Comme vous disiez tout à l'heure que les États-Unis ont poussé justement pour l'indépendance du Sud-Soudan, naïvement, je me disais qu'il y avait aussi des compagnies américaines qui profitaient de l'exploitation du pétrole.
Je crois que le soutien américain, il était celui du Black Caucus, c'est-à-dire des représentants et des sénateurs noirs au Congrès, et puis aussi des nouveaux chrétiens, des newborn Christians qui pesaient très lourd. Donc c'était une vision du Soudan ethnique et raciale. Hein. Et donc, selon le principe du choc des civilisations qui avait été lancé par Samuel Huntington, comme en Yougoslavie, quand les gens ne s'entendent pas, ne sont pas de la même couleur, de la même religion, de la même langue, on les sépare.
On parle donc toute cette semaine d'insécurité alimentaire, la faim, le grand retour. On est avec Marc Lavergne, aujourd'hui au cœur de la malnutrition, les conflits armés. On va prendre la direction du lac Tchad.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Une région qui est le théâtre de violences récurrentes, en cause l'action de ce groupe terroriste islamiste baptisé Boko Haram. Son emprise territoriale part du nord-est du Nigeria mais s'étend au Cameroun, au Tchad, au Niger. Il ne faut pas non plus minimiser aussi la responsabilité des États et en particulier de l'État nigérian dans cette affaire dont l'armée, longtemps moquée tant elle s'avérait impuissante à lutter contre le groupe armé, a également participé à cette mécanique de la violence, des exactions ayant été commises par certains soldats loyalistes. On va retrouver un nouvel invité, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à Paris 8, un spécialiste du Nigeria. Sur ces dernières années, c'est plus de 2 millions de personnes qui ont dû fuir à cause de ces violences. Parmi elles, évidemment, une majorité de femmes, d'enfants, des populations particulièrement vulnérables donc. Les agriculteurs ont dû abandonner leurs champs, les pêcheurs n'ont plus accès au lac, qui leur apportait évidemment de quoi nourrir. Et derrière la crise sécuritaire, on a évidemment aussi une crise humanitaire dont on parle assez peu. Quelle est aujourd'hui la situation humanitaire sur place? Est-ce qu'on peut parler de famine aujourd'hui, comme le fait les Nations Unies, Marc-Antoine Pérouse de Monclos?
Alors, les chiffres sur l'état réel de la malnutrition sont toujours sujets à controverse. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une crise nutritionnelle qui est due effectivement aux opérations militaires et aux attaques de Boko Haram, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc il est très important de bien comprendre que c'est pas dû uniquement aux exactions du groupe islamiste Boko Haram, mais également aux opérations militaires en cours. En plus de ça, on est quand même dans une région qui est extrêmement peu développée, où il y a une très vieille tradition de famine, hein, si on peut dire. C'est-à-dire que dès le 19e siècle, dès le début du 20e, avec un autre seigneur de guerre mahdiste, celui-là, on ne parlait pas à l'époque de terroriste islamique, il y avait également déjà des situations de crise nutritionnelle très intenses. Donc c'est une zone qui est de toute façon déjà très fragile, très vulnérable, et où évidemment les combats, les opérations militaires de la coalition internationale qui regroupe en fait les armées du Nigeria, du Cameroun, du Niger et du Tchad, effectivement exacerbé cette vulnérabilité.
Mmh. Pendant longtemps, je crois, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, finalement l'État central niait un petit peu le désastre humanitaire qui était en train de se jouer, et notamment dans cette fameuse État de Borno qui était finalement le fief d'une certaine manière de Boko Haram. Pour quelle raison, et est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement d'Abuja est disposé à laisser l'aide humanitaire parvenir jusqu'aux populations qui en ont besoin?
Alors, il y a plusieurs choses. Pendant longtemps, le gouvernement, notamment celui de Goodluck Jonathan, qui était le président jusqu'au début 2015, avait nié un peu la gravité de la situation pour diverses raisons politiques et prétendait que Boko Haram était uniquement une affaire intérieure, donc les pays voisins et la communauté internationale n'étaient pas censés s'en mêler. Et puis, il y a eu un revirement de position qui était dû à la fois à l'élection d'un nouveau président plus conciliant, je dirais, vis-à-vis de la communauté internationale, en tout cas sur ce point-là, donc Mohamed Bouhari, qui était un homme du nord du Nigeria, donc plus sensible aux souffrances de la population, alors que son prédécesseur, lui, était originaire du sud, et était chrétien et non musulman. Donc ça a joué. Et puis également la chute des revenus pétroliers, ça c'est très important, parce que le pétrole abonde presque 95% des revenus de l'État nigérian. Donc quand les prix du baril s'affaissent, eh bien effectivement, le gouvernement est obligé de faire davantage appel à la communauté internationale. Donc les deux facteurs ont joué pour expliquer pourquoi le gouvernement nigérian a accepté non seulement l'aide internationale, mais également ce qui était difficile pour lui à accepter. Hein. Le Nigérian se pense comme la grande puissance régionale, voire même le leader africain. Hein. C'est le pays le plus peuplé, c'est la plus grosse économie du continent.
Le plus gros PIB du continent, bien sûr.
Voilà, donc il fallait quand même un peu ravaler la fierté nationale pour accepter non seulement une aide internationale sur des proportions qui n'ont pas encore atteint peut-être celle de la guerre du Biafra dans les années 60, mais enfin qui reste quand même importante, et puis également accepter des troupes étrangères sur son territoire, avec des incursions tout à fait acceptées par les Nigérians, des armées du Niger, du Tchad et du Cameroun.
Alors, donc, justement, pardonnez-moi de vous couper, mais ça me paraît important, et je voudrais entendre votre position sur ce point, parce que effectivement, depuis 2015, il y a eu ce nouveau président, et puis il y a eu cette coopération régionale qui s'est mise en place dans la lutte contre Boko Haram, et je voudrais essayer de comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On a plusieurs pays qui ont uni leurs forces, le Nigeria évidemment, mais aussi le Tchad, le Niger, le Cameroun. C'est un véritable tournant, parce que jusqu'ici, je le disais tout à l'heure, l'armée nigériane avait le plus grand mal, c'est le moins qu'on puisse dire, à faire face contre ces djihadistes. Je voudrais essayer de comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Quel est l'état des forces du groupe mené par Aboubakar Shekau, qui, rappelons-le quand même, a prêté allégeance à l'État islamique en mars 2015, même si peut-être que les rapports ne sont pas si importants que ça, mais je voudrais comprendre où on en est aujourd'hui très concrètement, Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Depuis 2014, le groupe a reflué indéniablement. Il ne tient plus de ville. On le disait retranché sur deux zones difficiles d'accès, du côté des monts Mandara à la frontière du Cameroun avec la forêt de Sambisa, d'où il aurait été chassé par l'armée. Vous voyez que j'emploie le conditionnel à chaque fois. Et puis aujourd'hui, il serait surtout dans les marécages du lac Tchad, avec un groupe extrêmement fragmenté, donc en perte de vitesse, qui est un peu paradoxal, puisqu'on avait fait grand cas de son allégeance à Daesh, à l'État islamique, et que en même temps qu'il prêtait allégeance, eh bien le groupe reculait sur le terrain. Mais on voit qu'il y a aussi une contradiction dans le discours du gouvernement, qui d'un côté prétend avoir techniquement défait le groupe, hein, c'était une des grandes promesses électorales du président Muhammadu Buhari, qui dès décembre 2015 avait prétendu en avoir terminé avec le groupe. On voit qu'il n'en est rien, le groupe a toujours une capacité de nuisance, il mène des attaques à la fois contre des civils et contre les militaires, il faut le rappeler, donc le groupe est moins puissant qu'il ne l'était, mais il n'est pas réduit à néant. Et évidemment, ça pose des questions. C'est-à-dire que, d'un côté, le gouvernement a un discours très triomphaliste, avec un discours sur la normalisation de la situation, l'aide internationale doit aider à reconstruire la région. Et en même temps, on voit que la crise nutritionnelle perdure, voire même empire. Ce qui pose des questions aussi sur la responsabilité des sanctions économiques mises en place par les armées de la coalition internationale, qui concrètement empêchent les commerçants de franchir les frontières, qui concrètement sont revenus à fermer les marchés, notamment les marchés aux bestiaux, interdisent d'aller pêcher sur le lac Tchad, d'aller cultiver le poivron rouge le long des rivières comme la Komadougou, qui fait la frontière entre le Niger et le Nigeria, et tout ça impacte énormément sur la capacité de résilience de la population. Et donc ça entretient la crise nutritionnelle, parce que si vous voulez, vous pouvez pas avoir d'un côté un discours qui nous dit, vous savez, Boko Haram, c'est presque terminé, ils sont quasiment éteints dans le lac Tchad. Et puis d'un autre côté, on voit que la crise nutritionnelle augmente.
Et est-ce que vous pensez justement que c'est bientôt fini? Parce que vous avez raison sur ce discours triomphaliste. C'est vrai que ces dernières semaines, quand on regarde les choses, on a très régulièrement des annonces faisant état de victoire contre Boko Haram. Mi-mars, on avait 5000 civils qui étaient libérés. Je reprends la rhétorique du gouvernement dans une vaste opération de ratissage le long de la frontière camerouno-nigériane et intérieure. Territoire nigérien. Les otages, disait le porte-parole du gouvernement nigérian, en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été conduits au camp des déplacés de Bangui. Quel regard justement vous portez sur ces annonces de victoires à répétition? Et sont-ce précisément des victoires susceptibles de ramener durablement la paix?
C'est difficile de croire. Le gouvernement, il a perdu beaucoup de sa crédibilité en annonçant des victoires qui ne s'étaient pas réellement produites. Par exemple, le cas d'Aboubacar Shekau, qu'on a annoncé mort une demi-douzaine de fois, c'est extrêmement frappant. Tant l'armée nigériane que camerounaise que tchadienne se sont déconsidérées en annonçant la mort du leader d'une des factions du groupe. Donc aujourd'hui, la crédibilité du gouvernement est faible. En revanche, le gouvernement de Muhammadu Buhari a vraiment porté l'effort sur la communication plus que son prédécesseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information sur le Borno est beaucoup plus verrouillée. D'ailleurs, on a très peu d'informations sur ce qui se passe réellement dans le monde rural. Tant les humanitaires que les journalistes ont vraiment du mal à être autorisés à se déplacer dans les régions où le combat. Donc difficile d'avoir en fait une opinion indépendante pour savoir où on est exactement le groupe Boko Haram autour des marécages du lac Tchad.
Ouais, toujours ce problème d'information, Marc Laverne, que vous avez pu rencontrer, vous, à de nombreuses reprises, aussi du côté du Soudan.
Oui, je crois qu'il y a une grande différence entre les villes et les campagnes, effectivement. Et puis, en termes d'accessibilité, on a des grandes différences. Et là, c'est très clair dans l'exemple du Nigeria, qui est quand même, encore une fois, le géant de l'Afrique. Donc, on se demande, pour le Nigeria et ses 150 ou plus millions d'habitants, c'est un coup d'épingle, ce qui se passe dans le Nord, et ça n'a visiblement pas motivé ou mobilisé l'ensemble des énergies du pays pour régler la question.
Merci beaucoup Marc-Antoine Pérouse de Monclos d'avoir été avec nous. On va prendre tout de suite la direction du Yémen.
Ici, nous avons froid sur toutes les nuits et le soleil nous brûle la journée. Mes enfants, certaines semaines, n'ont pas à manger pendant 3-4 jours. Nous souffrons beaucoup du manque d'eau, de gaz. Nous n'avons rien. L'endroit où nous vivions a été bombardé. Certains ont été assassinés. Les autres ont été assez chanceux pour survivre. Nous sommes finalement parvenus à quitter la ville de Saada, mais ce n'était pas simple. Les bombardements n'arrêtaient pas. On est resté bloqué une semaine entière.
Voilà, extrait de Euronews, un reportage d'Euronews. Au mois de novembre dernier, on voit ce problème d'insécurité alimentaire qui pèse également sur le Yémen. Il faut rappeler qu'au printemps 2015, l'Arabie Saoudite avait lancé une grande intervention armée au Yémen contre l'insurrection Houthi. À l'époque, Riyad venait tout juste de perdre son monarque, le roi Abdallah, qui était remplacé par son demi-frère Salman. Mais celui qui tient vraiment les rênes du pays, c'est Mohamed Ben Salman, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, vice-prince héritier. C'est lui d'ailleurs qui a souhaité précisément lancer cette opération militaire dans laquelle est parvenu aussi à emmener un certain nombre d'autres pays, le Bahreïn, la Jordanie, le Qatar, le Maroc, l'Égypte, et puis surtout aussi les Américains qui apportent aussi un soutien en fournissant des renseignements. On va retrouver Laurent Bonnefoy, chargé de recherche au CNRS, rattaché au CERI, un spécialiste de cette péninsule arabique. Laurent Bonnefoy, depuis 2 ans maintenant, on a cette intervention armée extérieure qui s'est interposée dans le conflit entre les troupes loyales au président Abdrabo Mansour Hadi, aux Houthis et à leurs alliés. Des alliés à la fois à l'intérieur du pays, avec les militaires restés fidèles à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, mais aussi à l'extérieur avec l'Iran, Téhéran soutient les Houthis. Récemment, on l'entendait, Laurent Bonnefoy, je le disais tout à l'heure au début de l'émission, l'ONU estimait que 7 millions de personnes étaient exposées à un risque grave de famine au Yémen. On en parle très rarement, c'est vrai, mais malheureusement aujourd'hui, cette crise politique, le conflit armé s'est transformé en une crise humanitaire de très grande envergure, Laurent Bonnefoy.
Oui, alors on en parle peu parce que, comme vous l'avez relevé, peut-être les auditeurs ont compris, c'est une crise qui est effectivement extrêmement complexe. Alors l'enjeu pour un chercheur est peut-être ici de tenter de comprendre, non pas nécessairement les ressorts de la crise, puisque c'est pas le sujet de l'émission, mais bien pourquoi on est confronté à une crise humanitaire qui est grave. Ou peut-être aussi pourquoi finalement la société tient bien davantage que ce que les acteurs humanitaires disent depuis un certain nombre de mois, voire depuis le tout début de la guerre. Parce que ce qui caractérise bien le conflit yéménite et sa dimension humanitaire, c'est que il y a eu, dès les premières semaines, une sonnette d'alarme qui a été tirée par l'ensemble des acteurs humanitaires. Fort heureusement, les récits catastrophistes qui ont été présentés ne se sont pas réalisés. C'est-à-dire que on avait, au bout de donc de 4 mois de guerre, l'un des représentants de la Croix-Rouge, le CICR, qui disait 4 mois de guerre au Yémen sont pires que 4 années de guerre en Syrie. Or, ce qu'il faut constater, c'est que la société largement tient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise humanitaire, ça ne veut pas dire que la situation n'empire pas de jour en jour, mais simplement, il y a un certain nombre de ressorts qu'on doit tenter de comprendre.
Et c'est de ressorts, évidemment, qui existent depuis longtemps, parce que, Laurent Bonnefoy, je voudrais qu'on essaye d'établir vraiment le lien entre l'insécurité alimentaire qui existe aujourd'hui et cette intervention armée. Parce que je me souviens que, lorsque les printemps arabes avaient débuté, on avait dressé un état des lieux des pays de la région du point de vue économique, social et politique pour voir, finalement, lesquels étaient susceptibles de suivre le chemin de la Tunisie. Et le Yémen était le premier sur la liste. Je m'en souviens bien, la situation sociale et économique et politique était très mauvaise. On disait, voilà, c'est un des candidats possibles à la suite dans cette vague des printemps arabes. Mais à l'époque, on n'était pas en situation de famine. L'insécurité alimentaire, c'est véritablement le résultat du conflit armé actuel qu'on évoquait, Laurent Bonnefoy, très clairement.
Oui, évidemment, l'insécurité alimentaire est directement liée, d'une part, au bombardement. Elle est liée aussi à la mise en place de ce que l'Arabie Saoudite considère comme étant un blocus autour du pays qui vise à empêcher l'arrivée d'armements qui proviendraient d'Iran et qui viendraient alimenter l'effort de guerre mené par les rébellions houthis. Et donc il y a bien un contrôle effectif des frontières. Il y a l'aéroport de Sanaa qui est épisodiquement fermé. Et donc, on a bien une situation de pénurie qui est directement liée à cette guerre.
Une situation de pénurie.
Mais la situation humanitaire, la situation de pauvreté est bien plus ancienne.
Oui.
C'est effectivement le pays arabe le plus pauvre. Et cette pauvreté apparaît comme d'autant plus choquante que le pays a des frontières directes avec l'Arabie Saoudite, l'un des pays les plus riches du monde.
Sur l'aide justement aux populations, parce que visiblement les ONG ont beaucoup de difficultés à intervenir sur le terrain et à apporter cette aide aux populations civiles. Pour quelles raisons est-ce qu'il faut comprendre qu'il existe une intention délibérée de les empêcher d'agir?
Alors il y a une part évidente de complexité du terrain. Pour avoir discuté avec les acteurs humanitaires, notamment à MSF, qui a tout récemment fermé un de ses hôpitaux dans la région de Ibb, hein, qui est au sud du pays, dans une zone qui est tenue par les Houthis, il y a bien, on va dire, une incompatibilité ou une incompréhension qui existe venant de la part des acteurs armés. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas réellement comment fonctionne la logique humanitaire. Et puis, au-delà de ça, au-delà donc des difficultés concrètes de l'intervention humanitaire, on a une volonté de l'Arabie Saoudite, d'une certaine manière, de faire place nette et de mettre en avant, elle aussi, ses propres acteurs humanitaires. On a un centre qui a été très richement doté, qui a été créé au nom du roi saoudien, le roi Salman, qui, d'une certaine manière, veut s'arroger le monopole de l'action humanitaire. Le problème, c'est que, d'une part, il est lié directement aux belligérants, et d'autre part, il ne fonctionne avec peut-être une forme d'opacité, si bien qu'on ne sait pas réellement ce qu'il fait.
Au bilan, Laurent Bonnefoy, quelles sont les populations les plus exposées à l'insécurité alimentaire? Est-ce que ce sont précisément les territoires qui sont tenus par l'armée loyaliste ou plutôt celles qui sont tenues par les houthistes qui sont, je le disais tout à l'heure, soutenues par l'Iran?
Je dirais que la situation humanitaire est difficile un petit peu partout. Il reste qu'il y a des zones qui, parce que historiquement, elles ont peut-être été déjà moins bien traitées, ou elles étaient moins riches, ou elles ont une agriculture qui est moins florissante peut-être qu'ailleurs. Et ça, c'est essentiellement sur la plaine côtière, la région qu'on appelle la Tiama, où il y a notamment des problèmes d'assèchement des réserves en eau, ou bien de salinification des ressources aquifères qui posent un problème pour l'agriculture. Ces zones-là sont peuplées majoritairement par des sunnites qui, a priori, sont effectivement opposés à la rébellion. Et c'est dans ces zones-là, aujourd'hui, où il y a un véritable effort de guerre qui est mené, notamment pour récupérer le principal port qui débouche sur la capitale, le port de Hodeïda.
Laurent Bonnefoy, ça sera ma dernière question. Il y a aujourd'hui un envoyé spécial des Nations Unies qui est chargé de ce conflit au Yémen. Il est mauritanien, il s'appelle Ismaïl Ould Cheikh Ahmed. Est-ce que vous pensez qu'il peut arracher un accord politique entre les différents belligérants ?
Tout le monde, d'une certaine manière, l'espère. On a eu déjà trois sessions de négociations. Toutes ont achoppé peut-être sur un problème lié au calibrage des négociations. C'est-à-dire qu'on a une forme de binarité qui s'est imposée entre, d'un côté, les forces dites loyalistes et puis, de l'autre, les forces de la rébellion Houthi. Le problème, c'est que cette logique-là laisse de côté non seulement des acteurs comme la rébellion sudiste, ou le mouvement sudiste plus exactement, mais aussi un certain nombre d'acteurs tribaux notamment qui ne se reconnaissent ni d'un côté ni de l'autre. Et puis on a un calibrage problématique également parce que les négociations, d'une certaine manière, elles n'arrivent pas à reconnaître la dimension aussi proprement régionale du conflit. C'est-à-dire que l'exclusion de l'Iran et de l'Arabie Saoudite et des puissances des monarchies du Golfe en tant que telles de la phase de négociation se révèle tout simplement problématique.
Merci beaucoup Laurent Bonnefoy, je rappelle que vous êtes chargé de recherche au CNRS, rattaché aux séries, un spécialiste de cette péninsule arabique, de ce Yémen dont on vient de parler ensemble. Un grand merci à vous Marc Laverne de nous avoir accompagné également.
Merci de votre invitation.
De nous avoir éclairé sur cette crise qui secoue ce Soudan du Sud, mais l'ensemble de la région. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous étiez l'auteur de cet ouvrage qui était paru chez Cartala, Le Soudan contemporain. Merci infiniment. Dans quelques instants sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Olivia Gesbert, mais tout de suite, Le Monde des Idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
Ravi de vous retrouver après ces quelques jours de vacances, Brice. On va parler cette semaine avec vous des rapports entre l'Allemagne et les États-Unis. Le mois dernier, la chancelière allemande a rendu une première visite au nouveau président américain. Ça s'est pas très bien passé. L'accueil a été moins chaleureux que celui réservé à Theresa May. L'occasion pour vous de faire le point sur l'état des relations germano-américaines. Où en sont-elles, Brice ?
Les relations entre l'Allemagne et les États-Unis traversent une période de turbulence. La prudente chancelière Angela Merkel se garde bien d'assumer le rôle de leader du monde libre et de garante de l'ordre libéral du monde que Barack Obama était venu lui confier à Berlin à la veille de son départ de la Maison Blanche. L'Allemagne n'a ni les moyens ni l'ambition de jouer le rôle de shérif de la planète, mais elle est discrètement sollicitée par certaines organisations internationales pour organiser un front anti-Trump dans le domaine économique et financier, celui où elle compte. Notamment, nous apprend Der Spiegel, du côté du FMI et de l'OCDE. Le FMI critiquait la politique de Berlin envers Athènes. Il suggérait que la dette grecque, qui a déjà fait l'objet de plusieurs restructurations de la part de l'Union européenne, soit encore plus généreusement effacée. Eh bien, tel n'est plus le cas. Ce qui a changé, Donald Trump à la Maison Blanche. Alexis Tsipras pouvait compter sur la protection de Barack Obama. Donald Trump se désintéresse complètement de l'économie de la Grèce. Par contre, il critique vigoureusement l'Allemagne, non pour son égoïsme, mais pour ses succès commerciaux. Le FMI redoute que Trump, en mettant en œuvre une politique protectionniste, ne provoque une récession géopolitique. Cela pourrait infliger des dommages considérables à une économie mondiale qui n'est pas encore complètement remise de la crise de 2008. Trump et son équipe, écrit Christian Dreiermann dans le Spiegel, ont mis un énorme point d'interrogation sur tout ce que défend le FMI depuis 70 ans qu'il existe. Les avantages du libre-échange, des marchés ouverts et libéralisés, et ce qui n'est pas moins, de la solidarité internationale envers un pays qui traverse des difficultés financières. Le nouveau gouvernement américain ne croit pas que le commerce soit un jeu gagnant-gagnant. Pour Trump et ses conseillers, c'est un jeu à somme nulle. Ce qui est gagné d'un côté est forcément perdu de l'autre. D'où une tendance aux politiques économiques unilatérales. Les États-Unis, qui ont été les principaux promoteurs de la libéralisation des échanges dans le passé, se considèrent aujourd'hui comme des perdants. Le pays est devenu un hégémone refermé sur lui-même. Et le FMI compte sur l'Allemagne pour remplir le vide laissé par le retrait américain. Berlin est appelé à assumer plus nettement son rôle de leadership en Europe. L'architecture de la finance internationale était garantie par Washington. Aujourd'hui, les États-Unis proclament qu'ils n'ont en vue que leurs propres intérêts. Plusieurs pays ont fait savoir discrètement à Berlin qu'on comptait beaucoup sur l'Allemagne pour sauver ce qui peut l'être de l'ordre économique international au prochain sommet du G20 qui aura lieu en juillet à Hambourg sous présidence allemande. Et c'est notamment le cas de la Corée du Sud et du Japon. Comme par hasard, ces deux pays font l'objet des mêmes accusations de la part de la Maison-Blanche. Leurs balances commerciales avec les États-Unis sont déséquilibrées à leur profit, alors même qu'ils bénéficient depuis longtemps de la protection militaire américaine.
Ah oui, Trump exige que ses alliés, les alliés des États-Unis, partagent plus équitablement, dit-il, le fardeau de la défense commune. Mais c'est un discours qu'on a entendu régulièrement de la part de tous ses prédécesseurs, quasiment. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement ?
En effet, Florian, c'est ce qu'écrit par exemple Silke Temple, le rédacteur en chef de International Politique. Mais on n'a jamais vu un président des États-Unis, dit-il, évoquer le paiement rétroactif des dépenses faites par ses prédécesseurs pour la protection des alliés. Cet homme ne comprend manifestement pas le sens du mot « alliance », écrit de son côté le rédacteur en chef des pages internationales de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il définit ses relations avec une alliance comme une sorte de raquette. Trump ne demande pas seulement une contribution plus importante de la part de ses alliés, il veut qu'on paye pour la protection américaine. Et dans la foulée, il exige un rééquilibrage des échanges commerciaux avec l'Allemagne qu'il attribue non pas à l'excellence des produits allemands, mais à une manipulation par les Européens de l'euro. Réponse vigoureuse de Hans-Werner Sinn, célèbre économiste allemand sur le site Project Syndicate. Trump a tort d'attribuer l'excédent commercial allemand à une manipulation des taux de change. Il est vrai, reconnaît toutefois Sinn, que l'euro est sous-évalué par rapport au dollar. Sa parité actuelle est de 1 euro pour 1,07 dollars, alors que sa parité de pouvoir d'achat est de 1,29 dollars. Mais il ne faut pas y voir l'effet d'une quelconque manipulation. C'est simplement la conséquence d'une décision que l'Allemagne a vivement critiquée et que la Bundesbank a même combattue. La fuite en avant monétaire de la BCE. Pour soutenir les politiques budgétaires laxistes de nombreux pays européens en rachetant leurs dettes, la Banque centrale a inondé les marchés de liquidités. Cela a entraîné mécaniquement une dépréciation de la monnaie européenne, mais ce sont les États-Unis eux-mêmes qui sont responsables de la deuxième cause de la sous-évaluation de l'euro. Leurs banques ont vendu, on s'en souvient, des produits financiers basés sur des crédits hypothécaires pourris. Les comptes des banques allemandes étaient minés par ces fameux subprimes et le renflouement de ces banques a coûté 280 milliards à l'État fédéral. De ce point de vue, on peut estimer que beaucoup des nombreuses Porsche, Mercedes et BMW livrées aux USA n'ont jamais été payées. Le président américain devrait prendre cela en considération avant de déclencher une guerre commerciale contre l'Allemagne, conclut Hans-Werner Sinn.
Merci beaucoup Brice Couturier. On poursuivra toutes ces interrogations autour des relations entre les États-Unis et l'Allemagne demain. Dans quelques instants sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Olivia Gesbert.